Chapitre 6. Deux jours plus tard, je suis des yeux le triste cortège qui s'en va entre les fleurs que mon père a aimées pour disparaître bientôt derrière les buissons de roses défleuries. Les arbres, le ciel, les roses trémières ne me semblent plus les mêmes et, dans le trouble des facultés, au milieu d'un tel brisement, j'existe sans me rendre compte de la vie dont les lois me paraissent bouleversées. Cependant, les feuilles s'effeuilleront pour renaître plus fraîches, les arbres se dépouilleront pour se revêtir de nouveau, et ma douleur, dans l'évolution du temps, perdra son âpreté. Mais alors, je suis tout à ma désolation. Je voudrais rester seule toujours dans cette habitation silencieuse, afin de rêver indéfiniment à l'affection partie. Mais bientôt, la maison se remplit de bruit. Mon mari vient me chercher pour m'emmener à Rocheplate, et avec un effort horriblement pénible, je rentre dans la vie ordinaire. En m'asseyant à table pour dîner, j'éprouve presque de l'irritation devant les fêtes matérielles dont la préoccupation, dans un pareil moment, me semble être une offense à celui auquel les agissements humains sont devenus si indifférents. Mon père avait écrit un testament que nous trouvâmes quelques jours seulement après sa mort. Il faisait des legs à ses vieux serviteurs, laissait une rente viagère à la fine et sa propriété à Gilberte, pour que sa petite fille connût ce coin de terre où j'étais né et où il avait vécu heureux. Ces dispositions furent le sujet de protestations acerbes de la part de Louis, qui, jusqu'à l'ouverture du testament, avait été convenable, bien qu'il ne se fût pas départi de sa froideur pendant les heures cruelles que je venais de traverser. « Votre père n'avait pas besoin de faire un testament puisque vous étiez son héritière naturelle, » me dit-il d'un ton sec. « Je ne m'explique pas ces dernières dispositions. »« Elles sont faciles à comprendre, cependant, » répondis-je. Et, les yeux pleins de larmes, je regardais devant moi, absorbé par mon chagrin et par la pensée qu'en donnant sa propriété à Gilberte, l'unique souci de mon père avait été de me la conserver. Monsieur Amoir n'était guère en position de faire des générosités, reprit Louis, une partie de ses rentes s'éteignant avec lui, ce qu'il laisse est bien peu de choses. Vous le saviez, et ses récriminations sont incompréhensibles, répondis-je. Il est trop naturel qu'il ait songé à ses vieux domestiques, et surtout à la fine. Jusqu'à un certain point, je comprends ce dernier legs, répondit Louis, aux yeux duquel la fine avait toujours trouvé grâce. Mais je ne m'explique pas qu'il nous impose la charge de sa maison quand le seul parti sage eût été de la vendre. Elle représente pour nous une valeur bien insignifiante, répondis-je. Dieu sait que notre fortune nous permettait de la garder, lors même que mon père n'eût pas manifesté sa volonté. Notre fortune, releva Louis, dites la mienne, ma chère. Ce n'est pas la première fois que vous me tenez un tel propos, répliquai-je indigné. Mais vous pourriez choisir un autre moment pour le répéter. Je sortis vivement et allai m'asseoir dans le parc. Des pensées qui ne me quittaient plus calmèrent mon irritation, et il est bien connu qu'un grand sentiment, douleur ou joie, absorbe les autres sentiments. Certainement, mon père avait emporté avec lui quelque chose de moi-même. Peut-être était-ce à la fois invincible de ma jeunesse, en la vie, qui s'était définitivement enseveli dans ce premier tombeau. Peut-être, surtout, y a-t-il dans une mort sereine une force cachée, redonnant de l'élasticité au ressort qui fait les vaillantes. Avec ce dernier mot, il m'avait légué son dernier conseil, il avait mis en fermentation le meilleur de moi-même. J'avais vu mes espérances tomber les unes après les autres, tourbillonner devant mes yeux étonnés, confondus, et disparaître enfin, enlevés par le souffle de l'expérience, comme ces fleurs que le vent brisait la veille et emportait au loin. Mais maintenant, c'était avec la pensée courageuse de dominer la situation que je la regardais en face sans en pallier l'amertume par de vaines illusions. Je voyais clairement que le devoir et la lutte étaient devant moi, non pas la lutte contre les circonstances extérieures, nul ne pouvait les modifier, mais contre moi-même. Et, songeant à mes convictions chrétiennes, je prenais la résolution de m'élever au-dessus de ma faiblesse, de ne plus m'en aller à la dérive du désespoir et du découragement. Sans défaillance, je regardai la route très rude, me disant qu'il fallait agir comme ces milliers de femmes que les circonstances ont trahies et qui s'efforcent, sous des formes diverses, de pénétrer dans une vie morale supérieure. L'énergie latente de ma nature s'était réveillée. Je laissai mon esprit prendre son envolée vers les régions élevées du bien, croyant naïvement, dans le mouvement juvénile de ma pensée, que ma volonté serait toujours forte. Pendant que, dans une méditation virile, je me fortifiais contre les secousses à venir, la fine, que j'avais envoyée chercher, s'approcha de moi. Je ne l'avais pas vue seule depuis le malheur, elle se contenta de me dire avec émotion « Quand je pense, ma pauvre mignonne, que vous, qui êtes si jeune, vous avez déjà eu tant de chagrin !» C'était bien le mot du cœur qui allait droit au but, l'expression simple de la compatissance intelligente qui fait tant de bien à l'âme comprimée. « Je n'ai plus que toi pour m'aimer, la fine » dis-je avec un sanglot. « Et votre fille qui grandira, mon trésor ?»« Oui, c'est la joie du présent et la joie de l'avenir » dis-je avec ardeur. Puis je la mis au courant des dispositions de mon père. Il a pensé à toi et te laisse une petite rente de 400 francs. Bouh ! Bien sûr que je ne la prendrai pas ! S'écria la fille d'un ton véhément. Est-ce qu'il était devenu fou, le cher monsieur ? J'étais sûre que tu allais faire des difficultés pour une chose aussi simple, dis-je en m'impatientant. Est-ce que je n'ai pas des bras pour travailler ? Est-ce que je demande rien à personne ? Tu n'auras pas toujours tes bras. Mon père, qui t'aimait, y a pensé, et d'ailleurs, il voulait simplement te prouver son affection. C'est la clause d'un testament parfaitement légal, personne n'y peut rien. Du reste, tu sais qu'on doit se soumettre au désir d'un mourant. » Alors la fine se mit à pleurer de reconnaissance. « Je sais bien, moi, qu'on peut toujours refuser. Et puis, je ne veux pas être une cause de difficulté entre vous et votre arguignou de mari, mon trésor. » « Tu te trompes. Louis m'a dit qu'il comprenait très bien ce legs. Et je suis si contente que mon père ait eu cette pensée, ma chère vieille. Tu es prodigieusement entêtée et tu n'aurais jamais rien voulu accepter de mon affection si un jour tu ne travailles plus. » « Le bon cœur est héréditaire dans votre famille, ma petite reine, » répondit la fine qui accola désormais à son adoration pour moi une reconnaissance incroyable. 3 semaines plus tard, je revenais de la messe quand, en rentrant, je trouvai Louis qui, ayant été matinal par hasard, avait demandé où j'étais allé et m'attendait pour me morigéner. « Ah ça, est-ce que vous prenez la manie d'aller à l'église tous les matins maintenant ?»« J'y vais de temps en temps seulement, ce qui ne dérange personne. » »« Singulière façon de comprendre le devoir. Laisser sa maison pour aller à l'église ? Vous feriez mieux de rester auprès de votre fille. » « Elle dort encore à l'heure où je rentre, » répondis-je simplement. « D'où vous vient donc ce beau zèle ? » me dit-il avec ironie. « Oh, ceci ne regarde que moi, » répondis-je en essayant de sourire. Et il était bien le dernier être humain à qui j'eusse voulu confier la bonne effervescence de mes pensées. « Je déteste les femmes de sacristie, ma chère. » « Moi aussi, » répliquai-je tranquillement. Pendant quelques secondes, il me regarda d'un air moqueur. « Je sais ce que vous pensez. Vous vous imaginez, n'est-ce pas, dit-il en se montant tout à coup, que je suis incapable de vous comprendre. En deux mots, cependant, je vais vous expliquer votre état d'âme, comme dirait un casuiste. Nous nous croyons persécutés, une martyre, et nous allons essayer de tâter un peu de la voie des parfaits pour nous distraire. » « Soyez tranquille, » répondis-je en rougissant de colère. « La perfection à laquelle je vise consiste simplement dans le courage de vous supporter. » « Gracieuse réponse. Vous vous émancipez beaucoup depuis quelque temps. Est-ce que votre père était un dévot, Geneviève ?»« Non, mais il comprenait ce qu'il ne pratiquait pas et avait au moins le tact de respecter les idées des autres, » répondis-je avec vivacité. Oh oh, il est certain que vous êtes encore loin d'être parfaite, ma chère. Il est plus que probable qu'il en sera toujours ainsi, répliquai-je. Louis se promena quelque temps avec humeur et changea de conversation. Comme ce deuil arrive à propos, moi qui voulais passer tout l'hiver à Paris et recevoir un peu. J'espère en tout cas, Geneviève, que vous ne garderez pas le crêpe plus longtemps qu'il n'est nécessaire. Je vous sais tellement portée à un sentimentalisme exagéré que je me permets de vous en parler, quitte à paraître encore plus noire à vos yeux, car on ne peut pas penser tout haut avec vous. Rassurez-vous, je n'exagérerai rien, répondis-je le cœur serré. Dans l'après-midi, j'essayai vainement, en lisant, de ne pas tomber sous le poids de mes pensées, quand on m'annonça, M. Marien, qu'une absence de quelques semaines avait éloigné de Rocheplate pendant les jours de l'épreuve. Il s'avança avec vivacité et me serra la main d'un air si compatissant, si bon, que je fondis en larmes. Je comprends ce que vous souffrez, moi qui sais combien vous sentez profondément, me dit-il avec une émotion qui me remua jusqu'au fond du cœur. Ma pensée vous suivait dans ces jours de tristesse. Oh, je le sais, et j'aurais bien voulu vous avoir auprès de moi. Votre père était l'un des hommes les plus sympathiques que j'ai connus, me dit-il affectueusement. Et la vieille maison que vous aimez tant, vous la gardez, n'est-ce pas? Mon père l'a donnée à Gilberte. Je suis bien contente d'apprendre que vous pourrez toujours y aller. Je n'ai jamais rien vu de plus saugrenu et de plus plaisant que cette petite propriété. Mais vous ne la laissez pas à l'abandon? Monsieur de Méran s'y installe. Il a demandé à la louer, ce dont je suis ravie, car il la laissera telle qu'elle est. Ensuite, parce que Louis n'était pas très Je m'interrompis brusquement en rougissant, et Marien, comprenant qu'il y avait quelques nouvelles blessures, passa à un autre sujet. Vous ne m'avez pas aperçu ce matin, mais je vous ai bien vu lorsque vous sortiez de l'église. Vous aviez un petit air grave et résolu qui m'a frappé. J'aime beaucoup la messe matinale dans cette église si tranquille, répondis-je évasivement. Il me regarda longuement d'un air pénétrant qui me déconcerta. Savez-vous, me dit-il d'une voix émue, quelle devrait être votre devise? Laquelle? Je voulais fabriquer ce matin avec un vieux mot que je prends au sérieux et non dans un sens ironique. La voici. En avant, ma vaillantise. Vous pouvez la mettre en tête de vos pensées, je suis certain qu'elle leur convient parfaitement. Je lui tendis vivement la main sans répondre. Rien ne peut exprimer l'impression de calme, de dilatation intime que j'éprouvais. Sa sympathie intelligente m'avait soudain relevé et fortifié. Ainsi comprise, appréciée, je n'étais plus un pauvre être qui languit malgré mes efforts, mais un cœur réchauffé et courageux. De ce jour, notre intimité, déjà trop grande, devint plus réelle, plus sérieuse. Cependant, pour une raison que je ne m'expliquais pas, il venait moins fréquemment à Rocheplate, mais la glace était complètement rompue. Il entrait dans mes pensées sans que je les exprimasse. J'étais infiniment moins malheureuse et ne songeais pas un instant au danger de ces relations dont l'extrême douceur eût éclairé une femme moins jeune ou plus expérimentée. Un matin, nous finissions de déjeuner quand on apporta une dépêche. Louis devint livide en la lisant. Il passa deux ou trois fois la main sur son front en disant entre les dents « Libre ! Elle est libre !» Puis il se leva brusquement, donna l'ordre d'atteler et me jeta un tel regard que je restai comme un malheureux oiselet fasciné, terrorisé. « Le Seine est mort !» me dit-il brièvement. « Aline a besoin de moi, je pars !» Quand il eut quitté la salle à manger, je me précipitai sur la dépêche. Je lus et relus les quelques mots qui rompaient un dernier fil me liant à je ne sais quel vague espoir. « Libre !» Elle était libre. Et moi, sa femme légitime, la mère de son enfant, j'étais désormais la chaîne qu'il ne pourrait pas briser, l'infranchissable obstacle à la réalisation d'un désir ardent. Pendant les trois semaines que dura cette première absence, je vécus dans un trouble affreux, refusant de recevoir même la fine. Au bout de 15 jours, impatientée, elle força ma porte et me fit toutes les remontrances que son amour pour moi lui inspirait. « Vous avez une mine qui fait pitié, ma chère mignonne. Avez-vous le droit de vous rendre malade à force de vous tourmenter ?»« Que va-t-il arriver, la fine ? » m'écriai-je. « Si tu avais vu le regard qu'il m'a jeté en apprenant qu'elle était libre ?»« Voyons, voyons, ma petite reine, vous vous montez la tête. Je ne vois pas bien ce qu'il y a de changé pour vous. » « Pas changé ? » dis-je en marchant avec agitation. « Tu ne comprends donc pas que je ne vais plus être à ses yeux que l'obstacle détesté qui l'empêchera de l'épouser, elle ? N'avais-je pas encore l'espoir d'un rapprochement ? Oh, je sais ce que tu penses. C'était absurde, je le sais, mais je sais aussi, d'après ce que je souffre, que cet espoir existait quand même. Je ne changerai donc jamais, je n'arriverai donc pas à mettre un peu de calme en moi en face d'un fait auquel je ne puis penser de sang-froid ? Pourquoi l'aime-t-il ? Voyons, c'est à n'y rien comprendre. En êtes-vous encore là, ma pauvre mignonne ? Vous retournez en arrière. Quant à comprendre les hommes, c'est ben impossible et c'est la même chose pour les femmes, ajouta la fine sentencieusement. Pourtant, vous étiez plus tranquille depuis quelque temps. Je faisais les plus grands efforts pour avoir eu courage. Je me sentais comme toi, aidée par le bon Dieu, ma vieille fine. Pourquoi suis-je devant l'orage comme une barque désemparée ? Ça ne vaut rien, mon trésor. Il ne faut pas qu'un bateau s'en aille comme un imbécile sans cervelle. J'avais trop de confiance en moi-même, la fine. C'est une leçon. Oui, il y a peut-être de ça, mais surtout, ce n'était point bien fait de vous enfermer toute seule avec vos idées. Voici bien le moment, dis-je en me parlant à moi-même, de pratiquer la devise que M. Marien m'a donnée, « En avant, ma vaillantise !» Au nom de M. Marien, la fine murmura des mots que je n'entendis pas et fit une grimace qui m'intrigua. Mais elle ne dit rien. « Quand votre mari reviendra, je vais chercher à la raisonner, ma chère dame. »« Y penses-tu » m'écriai-je avec terreur. « Il te mettra à la porte tout de suite. » « Je sais bien ce que je dirai, » répondit la fine, que personne n'aurait pu faire démordre d'une idée qu'elle avait adoptée. Quand il revint, je compris que la réalité dépassait encore mes craintes. Qu'il me prit décidément en horreur, le fait n'avait rien qui m'étonnât. Mais sa fille elle-même avait perdu son pouvoir sur lui. Elle n'était plus à ses yeux qu'un lien entre nous dont la vue lui était pénible, bien qu'au fond il l'aimât toujours. Mais, tout entier à sa passion, il prenait en dégoût jusqu'aux objets matériels. Je crois que Madame Le Seine voulait sauvegarder quelques apparences en l'éloignant d'elle pendant un certain temps, mais il rongeait son frein et je mourais de peur devant les accès de rage que le moindre prétexte motivait, car il était sans cesse hors de lui-même en me regardant, moi l'obstacle qu'il eût vu disparaître avec une joie si grande. Pauvre obstacle, lui aussi était bouleversé, cherchant d'une main défaillante le gouvernail qui lui échappait, et, transi d'effroi, ne sachant plus louvoyer au milieu des écueils. Très peu de temps après le retour de mon mari, la fine mit son malheureux projet à exécution. Elle vint trouver Louis qui fumait dans un petit salon, à côté de celui où, souffrante, j'étais étendue sur une chaise longue. « Mon cher monsieur, lui dit-elle, voulez-vous me permettre de causer un instant avec vous ?»« Pourquoi pas, la fine ?» répondit-il aussitôt, car, par une contradiction singulière, il avait beaucoup de sympathie pour elle. « Faut-il, mon cher monsieur, que vous ayez l'esprit déviré pour ne pas aimer votre femme ? Mais enfin, j'ai vu souvent que les hommes ne ressemblent à rien de convenable, et peut-être ben que ce n'est pas tout à fait de leur faute. » Mais vous pourriez toujours être bon pour elle qui vous aimait tant et qui n'aimait que vous, elle. De quoi vous mêlez-vous, la fine ? S'écria Louis. De ceux qui me regardent, bien sûr, répondit-elle avec énergie. Elle est toute seule et ne sait à quel saint se vouer. Elle est tout ce que j'aime. Avant elle, j'aimais sa mère de tout mon cœur et vous croyez que ceux qui la regardent ne me regardent pas ? Allons, faudrait pourtant avoir le sens commun. « Avez-vous fini, ma bonne femme ?» demanda Louis ironiquement. « Bonne femme !» reprit la fine avec indignation. « Une bonne femme qui a le double de votre âge, mon cher monsieur, et qui peut bien dire ce qu'elle pense à une jeunesse comme vous. Puisque vous avez tant d'expérience, la fine, vous devez savoir que la jeunesse n'est pas patiente et jette à la porte ce qui la gêne, répliqua Louis d'un ton glacé. Vous pouvez être tranquille, je ne vous gênerai pas longtemps, répondit-elle exaspérée. Mais c'est déraisonné de croire qu'on m'empêchera de dire une parole pour cette pauvre mignonne qui sèche sur pied grâce à vous. Vous n'êtes pas encore partie, la fine, s'écria Louis furieux. Et vous savez que tout le monde en cause pour vous blâmer? Je l'ai vu, votre Doris, mon cher monsieur, et je vous assure ben que vous n'êtes pas le seul homme sur lequel elle a baillé le bec. Une exclamation furibonde de Louis l'effraya. Elle entra vivement dans le salon et le traversa sans me voir, en disant « Ah, le vilain gars ! Ah, le vilain gars ! Le vilain gars ! Le vilain gars !» Je me levai pour courir à elle, mais je m'arrêtai à la porte du vestibule, car un domestique, qui avait entendu ou deviné la discussion, la retenait pour lui en parler. « Vous avez eu tort, la vieille fine. Voyez-vous, mettre son doigt entre l'arbre et l'écorce, comme on dit, ça ne vaut rien. » « Tête de sot !» répondit la fine. « Si vous aimiez bien un arbre, est-ce que vous ne chercheriez pas à le protéger ?» Cette intervention, dont la maladresse était bien excusable, envenima encore la situation. Je songeais sérieusement à me réfugier avec ma fille auprès du vieux Méran, mais j'hésitais encore à prendre ce parti extrême qui répugnait à ma dignité quand le dénouement trop prévu arriva. Louis, sur un appel de Madame Le Seine, partit pour de longs, bien longs mois.